Europe Soir,
le 18-20,
Isabelle Millet.
Il est 19h18, merci à vous d'écouter Europe 1. On ouvre maintenant, comme chaque soir, le débat du Club des idées. Et en cette année 2020 très particulière qui s'achève, les Français ont beaucoup épargné. Alors c'est logique, direz-vous, on a eu moins d'occasions de dépenser de l'argent, moins de voyages, pas de restaurants, des magasins fermés lors du premier confinement, et puis la crainte de l'avenir aussi qui nous a conduit à mettre de l'argent de côté. L'épargne financière des ménages, elle a augmenté de 130 milliards d'euros. Autre chiffre qui illustre cette prudence et cette tentation de l'épargne, près de 100 milliards d'euros ont été placés sur les livrets A cette année. Alors en ces temps troublés, à l'avenir incertain, quels sont les placements intéressants? Je suis sûre que vous allez tendre l'oreille parce que ça nous concerne tous, quels que soient nos revenus. Et on en parle ce soir avec mes invités. Éric Allouche, directeur exécutif d'ERA Immobilier. Marc Touati, président du cabinet Acfedi, aux commandes de l'économie et de la finance. Laurent Saillard, journaliste éco au magazine Le Revenu. Et Christopher Dembic, économiste chez Saxo Bank. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être à mes côtés ce soir. D'abord, est-ce que vous confirmez, bonsoir, est-ce que vous confirmez que les Français ont mis de l'argent de côté cette année davantage que d'habitude? Marc Touati, tiens.
Ben oui, complètement. Le problème, vous l'avez évoqué, c'est qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui une épargne de précaution. C'est-à-dire que l'État français a été l'un des plus généreux de la planète. Donc effectivement, tant mieux, on est content d'être français. Le problème, c'est que comme on pouvait pas consommer, effectivement, on a cette épargne. Ces revenus sont venus gonfler effectivement l'épargne. Et donc, vous avez dit les chiffres, 130 milliards d'euros d'augmentation de l'épargne des Français. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les catégories ont épargné davantage. Et alors, ce qui est évidemment la grande interrogation, c'est que comme les Français ont peur de l'avenir, parce que malheureusement, même sur 2021, on a, le vaccin, on espère que tout ira mieux, mais il y a quand même des risques importants, notamment des risques de chômage, eh bien, cette épargne est venue gonfler ce qu'on appelle donc l'épargne de précaution. Et donc, c'est pourquoi les Français ont privilégié, bien sûr, le livret A, qui est évidemment défiscalisé. Ça ramène pas grand-chose, seulement 0,5% par an, mais au moins, on peut puiser dedans quand on veut, et parallèlement, il n'y a pas d'impôt. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, attention, cette épargne, elle sera, je pense, particulièrement utilisée en 2021. Donc, faut pas imaginer que les Français vont continuer d'augmenter leur épargne pour l'année prochaine.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez que justement c'est une tendance qui va se poursuivre, Laurent Saillard?
Non, c'est effectivement, comme le dit Marc Touati, les épargnants vont certainement aborder 2021 de façon un petit peu différente. Préférer l'épargne réglementée en 2020 n'était pas forcément un mauvais choix.
Qu'est-ce qu'on appelle l'épargne réglementée déjà ?
Alors, l'épargne réglementée, c'est-à-dire en fait, c'est cette épargne dont parlait Marc Touati, notamment le livret A, livret de développement durable solidaire, rémunéré à 0,5% actuellement, mais net
donc
de toute taxation, et qui, ne fait que protéger un peu plus que l'inflation, qui est estimée par l'INSEE à 0,2% à cette fin d'année. Mais malgré tout, sans aucun risque et avec, comme le rappelait Marc, une liquidité totale, ça vous pouvez à tout moment décider de reprendre votre argent.
On a l'impression que c'est rassurant.
On a observé avec ces 130 milliards, effectivement.
130 milliards par rapport aux années précédentes, pour qu'on compare, qu'on se fasse une petite idée.
Il n'y a pas de comparaison facile, parce qu'on n'a pas atteint, il faudrait remonter à des périodes peut-être comme celle de la crise financière de 2008 ou encore avant, pour retrouver en fait ce stock d'épargne. Assez naturellement, là c'est un peu différent parce que le confinement a fait que naturellement et mécaniquement, les Français ont gardé l'argent chez eux, si j'ose dire, et ont privilégié finalement des livrets bancaires réglementés, comme je disais, donc garantis par l'État, notamment, on pourrait rajouter aussi l'épargne logement, mais qui demande un peu d'immobilisation.
On va détailler tout ça justement, parce que c'est important de faire un tour d'horizon des différents placements pour voir un petit peu ce qui est intéressant ou pas. Donc le livret A, vous dites, c'est rassurant, taux d'intérêt 0,5%, mais ce n'est pas très intéressant.
Non, mais alors,
pourtant,
c'est
toujours la faveur des Français.
Mais quand vous avez une crise sanitaire mondiale comme celle qu'on a connue, avoir une rémunération nette de toute taxation, c'est-à-dire qu'il y a, comme les Marc, il n'y a pas d'impôt sur revenu, il n'y a pas de prélèvements sociaux, et bien au moins vous protégez votre capital en attendant des jours meilleurs, puisque les autres types de placements sont soumis, eux, à peut-être une liquidité plus faible, et puis dans certains cas aussi de la volatilité, c'est-à-dire que leur valeur évolue beaucoup.
Alors les autres titres, justement, les autres de placement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le livret d'épargne populaire, par exemple, le livret jeune, le livret de développement durable, le plan d'épargne logement.
Voilà,
si on doit placer son argent aujourd'hui.
Plus d'immobilisation, mais qui apporte quand même une certaine souplesse. Et puis vous avez le fameux fonds en euros de l'assurance vie. Alors là aussi, on est sur un véhicule, donc c'est plus contraignant parce qu'on s'inscrit dans la durée. Et en réalité, en fait, on a une souplesse si on veut vraiment récupérer son argent avec des garanties.
C'est une des premières choses que vous propose votre banquier, d'ailleurs, souvent l'assurance vie. Ça vaut vraiment le coup, Christopher Dembick? Je rappelle, vous êtes économiste chez Saxo Bank. Il faut y aller quand on nous propose une assurance vie?
Alors, l'assurance vie est intéressant par nature. Simplement, il faut voir sur quoi c'est adossé. Effectivement, si on est sur des fonds euros avec les taux qui sont extrêmement bas, c'est peut-être pas le plus pertinent. En tout cas, c'est plus une approche sécuritaire, c'est-à-dire on ne veut pas prendre de risque, on veut conserver son capital. Mais l'objectif, je pense, quand on réfléchit sur le long terme, ce n'est pas uniquement de conserver son capital, mais aussi de gagner,
d'investir. De le faire fructifier.
Complètement. Et donc l'assurance vie peut être un élément intéressant, puisque quelque chose qui est assez méconnu du grand public des Français, c'est généralement le grand public lit assurance vie à fonds euros. Mais en fait, vous pouvez avoir une myriade de supports auxquels ils sont adossés. On peut par exemple, avec l'assurance vie, investir sur des actions. Vous pouvez investir sur l'immobilier, par exemple, via les SCPI, on en parlera plus tard, j'imagine. Mais donc, l'assurance vie peut être intéressante dans un processus de diversification.
Donc, avec plus ou moins de risques, on dit à son banquier, moi j'ai envie de prendre un peu de risque, beaucoup de risque, pas trop de risque, oui.
Exactement, donc on ajuste en fonction des différentes composantes. Et c'est vrai que l'intérêt est de réduire au maximum, je voudrais dire, la composante fonds euro qui vous rapportera bien sûr très peu.
Très peu, oui. Et au niveau de la fiscalité, l'assurance vie, c'est intéressant, je crois, au bout de 8 ans, c'est ça, Laurent Saillard?
Oui, alors, c'est vrai que si on veut maximiser l'intérêt, enfin, toute une question, disons, d'horizon d'investissement. Pour répondre à votre question, il faut savoir si on a besoin de son argent rapidement,
si on peut s'engager
dans la durée. Quand je vous parlais des livrets d'épargne réglementée, c'est intéressant si on peut avoir à tout moment besoin de son argent, est-ce qu'on peut le retirer? Quand on est sur des véhicules de long terme, on va bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux si on a un minimum d'immobilisation, 5 ou 8 ans. Et puis, on peut aussi profiter d'une certaine souplesse. Il y a d'autres avantages dans l'assurance vie, notamment pour la transmission. Mais l'intérêt de l'assurance vie, c'est qu'il y a cette partie garantie dans la partie fonds euros qui ne rapporte pas grand-chose. C'est vrai, 1,5% l'an dernier, probablement moins cette année. Mais vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les multisports. À côté, vous pouvez avoir une poche dans laquelle vous investissez dans le long terme, sur les marchés actions, par exemple, sur d'autres véhicules. Et là, effectivement, vous pouvez espérer avoir une espérance de gain, en tout cas, plus importante. Mais la grande différence, c'est ça, c'est l'horizon d'investissement. Est-ce que j'ai besoin de mon argent dans 3 mois ou 6 mois? Ou est-ce que je suis capable de l'immobiliser pendant 5 ans, en espérant peut-être plus, mais en risquant aussi davantage?
Et puis, vous le disiez, l'assurance vie, elle est avantageuse en matière de succession. Hein, c'est ça, Christopher Dembick? Ça n'entre pas dans la transmission, dans le calcul de la succession, c'est ça?
Complètement. C'est un support qui est intéressant, effectivement, dans ce cadre là. Et finalement, l'assurance vie vous offre un panel très très large de possibilités d'investissement. Je vous le justifie à juste titre, c'est notamment sur l'aspect transmission. Vous avez une composante qui peut être en fonction de votre aversion ou de votre appétit au risque. Est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques, à perdre éventuellement cet argent? Donc c'est un outil, je pense, qui est très connu des Français, mais qui est méconnu par rapport à tous les aspects qu'on peut mettre en application. Et de mon point de vue, ça doit faire partie absolument, comme le sont les livrets A, par exemple, pour tous les Français, doit faire partie du portefeuille d'investissement assez classique de chaque Français.
Et alors, il paraît que on change de sujet, mais il paraît que le nouveau plan d'épargne retraite a cartonné cette année.
Oui. Alors, je pense que c'est un élément qui est assez...
100 000 nouveaux contrats, c'est ça, j'ai lu?
Tout à fait. Il y a eu un effet d'engouement extrêmement important. Donc, bon, c'est lié à la loi Macron qui était donc l'année dernière, qui a effectivement modifié un peu cette structure-là. Et il y a eu un effet de promotion, notamment très important, autour de ces nouvelles mesures. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que quand on arrive sur le marché du travail, ou même si on est déjà présent sur le marché du travail, il faudra aussi prévoir sa retraite. Et c'est vrai que ce type de dispositif est tout à fait intéressant. Alors, ce n'est pas tant de l'investissement que de la défiscalisation. Hein, oui. C'est la petite différenciation qu'il faut prendre en compte à cet égard. Mais ça fait effectivement partie de la panoplie lorsqu'on veut prévoir à l'avenir.
Il faut que pour que ce soit intéressant, il faut l'ouvrir à quel âge son plan épargne-retraite, Laurent Saillard?
Alors, nous, on considère que c'est intéressant pour un certain profil. Et que c'est surtout intéressant, notamment avec l'avantage fiscal, si on a plus de 50 ans, si on est fortement fiscalisé et qu'on anticipe, en le connaissant, un départ à la retraite où on va avoir une forte chute de revenus, donc une forte chute d'impôts sur le revenu. C'est surtout dans ce cadre-là que ça nous paraît intéressant. Ça veut dire que ça ne nous semble pas forcément approprié si vous êtes très jeune ou si vous pensez à votre retraite et que vous êtes trentenaire, etc. En revanche, si vous êtes dans ce cas de figure, si vous avez dépassé la cinquantaine parce que seulement vous avez une visibilité, c'est-à-dire que vous savez à peu près... Vous avez une chance de peut-être de cesser votre activité et peut-être vous avez une visibilité. Alors, en général, plus on se rapproche de la date, plus on a une visibilité. Oui. Vous savez si vos revenus vont beaucoup chuter, peu. Et à ce moment-là, vous pouvez effectivement envisager. Parce qu'en gros, l'État ne fait pas non plus trop de cadeaux. Il vous donne un avantage fiscal à l'entrée, qui est très intéressant, c'est vrai, sur l'impôt sur le revenu. Mais il peut vous en reprendre une partie quand vous sortez, puisque vous avez, notamment si vous prenez la sortie en rente, eh ben, elle sera taxée comme une pension, comme un salaire. Et donc, ça va dépendre de votre situation fiscale à ce moment-là. Mais il y a des cas gagnants.
Super, bah c'était intéressant de savoir ça. On va poursuivre ce débat passionnant. Je ne vous ai pas oublié, Eric Allouche, c'est promis. On va parler d'immobilier aussi et de bien d'autres choses, bien d'autres placements après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h30, on poursuit notre débat sur Europe 1 du Club des Idées. Alors, nos ancêtres cachaient leurs économies sous leur matelas ou dans la grange. On a heureusement aujourd'hui d'autres options si l'on veut placer son argent, le faire fructifier si possible. C'est quelque chose qui concerne beaucoup de Français, surtout en temps de crise. On a davantage épargné en 2020, on voyait ça, que les années précédentes parce qu'on a moins dépensé, par peur du futur aussi. Où et comment placer son argent en 2021? On continue d'en parler avec mes invités. Eric Allouche, Marc Touette, Laurent Saillard et Christopher Dembic. Alors, il y a une question que je ne vous ai pas encore posée, mais que j'entends souvent. Est-ce que tous ces livrets, tous ces plans d'épargne sont complètement sans danger? Par exemple, si demain, ma banque fait faillite, si elle ferme, ça se passe comment, Marc Touati? Est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus?
Je ne vais pas vous rassurer. Enfin, ça dépend combien vous avez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait très bien. Si une banque fait faillite, il y a ce qu'on appelle l'assurance, effectivement, des dépôts. Et ça va jusqu'à 100 000 euros. Donc, effectivement, si vous avez moins, tout va bien, vous serez remboursé. Si vous avez plus, ça peut effectivement poser quelques problèmes. Et ça ne concerne pas, évidemment, que les placements, les comptes à vue. Hein. Ça concerne également l'ensemble de l'épargne. Donc là, il faut faire très attention. Après, il y a une deuxième source d'inquiétude. Hein. Je ne veux pas plomber l'ambiance avant le réveillon, bien sûr. Mais,
non, mais si soyez honnête, c'est pour ça que vous êtes là.
Mais voilà, exactement, c'est pour ça, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas un homme politique, donc on peut y aller.
Allez-y.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une recommandation du FMI qui dit que également, en cas de nouvelle crise financière, alors on espère qu'on va l'éviter en 2021, mais on ne sait jamais, ben les États aussi pourront ponctionner sur certains comptes, alors là, pas sur l'épargne bien sûr, mais sur certains comptes bancaires. Donc, il faut quand même rester extrêmement prudent. Donc le mieux, c'est vrai que je pense, on va en parler, mais il faut essayer d'investir davantage dans ce qui n'est pas liquide. Par exemple, effectivement, notamment l'immobilier, certaines actions, etc. Donc, et après, ça va dépendre, bien sûr, de l'horizon d'investissement sur le long terme, bien entendu. C'est-à-dire que si on a peur de l'avenir, bah, même si ça ne ramène pas grand-chose, il faut épargner sur des déplacements qui rapportent peu, ce n'est pas grave. Moins, on ne gagnera pas beaucoup, mais moins on ne perdra pas. Parce qu'il faut être clair qu'aujourd'hui, ça c'est quand même très important de le savoir, on a eu une flambée l'année dernière en 2020, enfin cette année encore en 2020, il y a quand même quelque chose d'assez anormal, c'est qu'on a eu une récession mondiale historique, et pourtant, les marchés boursiers ont continué d'augmenter, notamment aux États-Unis, mais également en France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les actions sont chères. Donc si on a du long terme, on peut investir. Si par contre, sur du court terme, il faut se préparer à peut-être quelques petites prises de bénéfices, quelques baisses. Pareil sur l'immobilier, à long terme, on est toujours gagnant. Mais comme là, l'immobilier est très très cher aujourd'hui en France, il faut également rester très prudent sur le court terme. Donc c'est bien ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui quand on veut épargner en France. C'est l'horizon d'investissement, avec bien sûr aussi des risques sur les banques, même si aujourd'hui je pense que les banques françaises sont globalement assez protégées, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de banques en Europe qui sont au bord de la faillite, donc on ne peut pas exclure une crise financière dans les prochaines années, donc prudence tout de même.
J'ai vu que l'économiste Robert Schriller, prix Nobel d'économie en 2013, disait qu'à long terme, on assistait plutôt au triomphe des optimistes. Vous êtes d'accord avec ça, Marc Touati, Laurent Saillard?
Alors oui, mais je mettrais quand même un bémol, ce que dit Marc Touati, c'est qu'il y a les banques centrales, Marc Touati, c'est très bien, les banques centrales qui veillent au grain. Pour éviter que les plafonds théoriques qu'il citait, 100 000 euros ou 60 000 euros selon les cas, soient en fait exercés. A priori, vu ce qu'on a, on a assisté à un effet, enfin une coordination et une implication historique qui fait que les banques centrales dans le monde ne veulent plus que la crise financière de 2008 se reproduise. Et donc c'est quand même ça le principal vecteur de réassurance, on va dire, de l'épargnant. Pour le moment.
Est-ce que ça peut être intéressant pour éviter de prendre trop de risques, d'avoir plusieurs banques? Christopher Dembic, je rappelle, vous êtes économiste chez Saxo Bank.
Alors,
on peut placer un peu là, un peu ailleurs.
Extrêmement clair et direct. Les banques françaises régulées par la Banque de France, a priori, n'ont aucun risque. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien d'affoler
vos auditeurs.
Vous êtes sûr de ça? Déjà, là, vous avez la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Je pense que pour la plupart quand même des Français, vous êtes sous 100 000 euros, donc pas besoin de vendre panique à cet égard. Sur les banques françaises aussi, vous avez quand même eu depuis la dernière crise financière un accroissement extrêmement important en termes de réglementation, etc. Donc, essayer de parsemer dans différents comptes, dans différentes banques, simplement parce qu'on a une crainte sur une banque spécifique, et stupide, très honnêtement.
D'accord, ok, c'est clair.
Si vous voulez profiter éventuellement d'offres commerciales, pourquoi pas, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sur un scénario, effectivement, comme en 2008, où on avait des craintes au niveau des banques, puisque justement, les banques centrales sont là pour assurer que tout se passe bien.
Bon, alors ça c'est noté. On va parler maintenant de l'immobilier. Ça y est, on dit que c'est une valeur sûre, vous attendiez ça. Éric Allouche, directeur exécutif d'Era Immobilier. Valeur refuge, est-ce que c'est toujours le cas ?
Mais c'est toujours le cas, plus que jamais, dans une période anxiogène.
Vous ne pourriez pas nous dire le contraire en même temps.
Je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est la vérité. Donc effectivement, je ne vais pas vous dire
Est-ce
le contraire.
Est-ce qu'autour de la table, vous êtes d'accord avec lui ?
Sur l'immobilier, oui.
Il y a, eu des surprises sur l'immobilier en cette année, oui, c'est vrai.
Mais
c'est vrai.
Voilà, bon. Et donc l'immobilier, c'est une valeur sûre. Tout le monde a besoin d'immobilier. L'immobilier, c'est au-delà de la conjoncture. C'est la sécurité. Sécurité de placement. On parle effectivement de placements qui sont toujours un peu volatiles. On ne sait pas ce qui va se passer. Et on a des taux qui sont très bas. Donc il faut en profiter. Alors effectivement, on dit, bon, les prix montent. Oui, effectivement, les prix montent. Pourquoi les prix montent ? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Effectivement, on a des prix qui ont monté en moyenne de 6,5% cette année. On a moins 5% de transactions vraisemblablement sur cette année, ce qui n'est pas grand-chose au regard du contexte. Donc l'immobilier a effectivement le vent en poupe. Donc aujourd'hui, il faut effectivement aller dans l'immobilier. Alors après, peut-être vous allez me poser une question sur où.
Où ? Eh bien oui, voilà.
Ah ben là, la grande,
où,
c'est la grande question.
Ne pas faire n'importe
alors,
quoi, où faut-il
alors,
investir ?
Si on recherche effectivement un rendement, on va chercher le meilleur ratio entre le coût de cet immobilier et le revenu que ça va générer. Si on cherche ça, on va privilégier plutôt des petites surfaces et plutôt aller dans les endroits où les prix sont plus bas. Effectivement, à Paris, par exemple, on est en gros à 10 000 euros du mètre carré. Donc, si vous achetez un 20 mètres carrés, je vous laisse faire le calcul, ça fait 200 000 euros. Vous allez louer ça, 600 euros, ça va vous faire un rendement d'environ 3,6% brut.
Ouais.
Vous allez à Saint-Quentin dans l'Aisne, je discutais avec un agent immobilier ERA il y a très peu de temps, et il me disait qu'il avait vendu une maison de 45 mètres carrés, qu'il louait à 480 euros par mois. Il l'avait vendu en 5 jours à 61 000 euros, honoraires d'agence inclus, ce qui fait une rentabilité de 9,44% brut. Vous voyez, donc il n'y a pas photo. Donc ceux qui veulent investir, ben, il faut investir dans l'immobilier, très clairement. Et il faut privilégier effectivement les petites surfaces et également les villes périphériques. Mais encore, ça, ce n'est pas toujours vrai.
Parce on a vu que les aussi... prix ont grimpé dans les villes françaises de plus de 100 000 habitants.
Oui,
Mulhouse,
exactement.
Limoges,
oui, alors
Orléans.
Vous avez un deuxième phénomène dans ces grandes villes, y compris à Paris, c'est que ce que vous ne gagnez pas en rentabilité, vous allez peut-être gagner en investissement, puisqu'on sait, et on l'a vu dans les années précédentes, l'immobilier à Paris a augmenté de manière extrêmement importante. Et Paris restera toujours Paris. Paris, c'est un petit bijou, c'est tout petit. Alors certains disent, oui, l'immobilier atteint des sommets. Oui, l'immobilier atteint des sommets. On est encore loin de Londres, on est encore loin de certaines métropoles, effectivement. Et l'immobilier à Paris a encore de la marge. Donc, ce qu'on risque de perdre peut-être en rendement, on va le garder, on va le gagner en investissement. Donc je dirais, il faut prendre sa calculatrice, il faut regarder ses capacités financières et il faut faire un choix. On peut aussi se dire, je ne veux pas investir trop loin de l'endroit où j'habite. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut envisager. Il faut regarder également la durée, il faut regarder tout ça.
Et puis voir aussi si on peut emprunter. On en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines sur Europe 1. En 2021, je crois que l'accès au crédit va être facilité, hein, c'est ça, alors, Laurent Saillard,
oui, alors
ça va permettre
d'emprunter
plus et plus longtemps.
Oui, alors parce que c'est un petit peu l'intention. Parce que la difficulté, c'est-à-dire dans la situation actuelle, c'est qu'on a eu d'abord un resserrement du crédit en 2020, 2019 et 2020, et qui n'a pas eu un impact si important que ça. Mais dans ce qu'on disait à l'instant, c'est vrai qu'il y a deux axes majeurs. Il y a le résidentiel, c'est-à-dire vous achetez l'immobilier pour vous loger, et puis il y a l'investissement
pour
avec
louer.
Un rendement. Ces deux aspects différents, mais ce qui est ressorti de cette crise cette année, c'est que les Français et d'ailleurs tous les citoyens, ont bien compris que le logement, si la pierre était une valeur refuge, le logement c'est aussi une protection, notamment contre le virus. Donc ça a pris une valeur d'autant plus importante, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le séisme qu'on attendait peut-être en se disant les prix ont tellement monté, c'est une crise majeure, il va se passer quelque chose dans l'immobilier. Et c'est vrai que le niveau des transactions en 2020 a été quand même assez étonnant, et il a certes un peu baissé, mais enfin, il est quand même à un niveau historiquement très haut, et les prix n'ont pas chuté.
Alors, c'est d'autant plus surprenant c'était plus compliqué pour faire des visites, par exemple.
Alors, oui, ben après, il y a des variantes. C'est-à-dire que vous avez l'effet des grandes villes moyennes dont vous parliez, un attrait à cause notamment du confinement, du télétravail, etc. Et Paris, peut-être que Paris est peut-être, a commencé quand même un petit peu à baisser. Mais c'est vrai que c'est l'épaisseur du trait. Ce n'est pas encore quelque chose de catastrophique ou de phénoménal. Donc, il y a ce double effet. Et aujourd'hui, on peut quand même dire, on peut considérer que l'immobilier, les prix de l'immobilier sont élevés. Donc la difficulté, c'est la perspective. C'est-à-dire que c'est toujours un investissement
important, intermédiaire entre l'épargne de précaution et puis l'investissement à très long terme dans des actifs risqués comme les actions. Mais il y a effectivement une petite incertitude. Néanmoins, l'environnement, effectivement, comme vous le disiez, notamment le soutien au crédit, devrait permettre à l'immobilier de se maintenir.
Et je voudrais qu'on dise un mot des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Est-ce qu'on peut rappeler déjà en quelques mots, peut-être, Christopher Dembick, ce que c'est et vous nous direz si ça vaut le coup, Éric Allouche.
Ce sont en fait des. C'est un investissement aussi qui est intéressant, puisque ces SCPI en fait, achètent, gèrent, mettent en location, rénovent éventuellement, si c'est le cas, différents types d'investissement immobilier, ça peut être de l'immobilier de tourisme, bien sûr des baux commerciaux, ça peut être aussi bien sûr logistique, par exemple des entrepôts. Et effectivement, après, chaque épargnant peut avoir une partie justement de cet investissement et est rémunéré en fonction des revenus. Et donc effectivement, il y avait beaucoup de questions, je pense que vous serez plus apte que moi pour le mettre en avant, à du fait de la crise sanitaire sur la rentabilité des SCPI, mais on voit bien finalement
Eric
que
Allouche,
la baisse est...
L'investissement dans une SCPI, c'est pas garanti, hein.
C'est pas garanti, puis souvent c'est assis en plus sur de l'immobilier de bureau, parfois. Hein. Donc l'immobilier de bureau, effectivement, il y a des aléas. On sait qu'il y a le confinement, on sait qu'il y a le télétravail. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont accepté ce télétravail. Peut-être qu'il y aura moins besoin de bureaux. Donc il y a des paramètres quand même qui sont un peu incertains.
Ça dépend des fluctuations des marchés immobiliers.
Personnellement, ouais. Je préfère l'immobilier classique. On voit ce qu'on achète.
C'est vrai que le grand gagnant de cette année 2020, c'est l'immobilier résidentiel, l'immobilier d'habitation. Les SCPI qui comportent une très forte composante en bureaux et aussi une composante en commerce et centres commerciaux, peuvent souffrir à horizon 2021.
Donc ce n'est pas forcément le placement à privilégier.
Ce sont des baux assez longs et en fait, pour le moment, les loyers ont été négociés parfois. Donc on ne voit pas encore l'effet crise forcément très nettement.
On poursuit ce débat dans un tout petit instant. Il sera l'heure de vous parler d'or justement. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Placer son argent, comment faire les bons choix? On poursuit notre débat sur Europe 1 à mes côtés, des spécialistes qui vous disent quelles sont les options les plus judicieuses et surtout les erreurs à ne pas commettre. On a fait le tour d'horizon de pas mal de placements déjà, il y en a énormément. Marc Touati, est-ce que l'or est encore aujourd'hui une valeur refuge?
Alors oui, alors l'or est une valeur refuge dans l'absolu, bien entendu, c'est une valeur refuge surtout contre ce qu'on a connu l'année dernière, c'est-à-dire une récession, une pandémie. Alors là, évidemment, l'or a flambé, d'ailleurs on m'a conseillé d'en acheter, mais attention, si on l'espère tous, la pandémie disparaît, si on retrouve une croissance forte, alors là, effectivement, même si l'or est une valeur refuge, ça aussi est en cours de marché, donc l'or peut baisser.
Parce qu'il a atteint son plus haut niveau cet été, hein. Il a atteint son plus haut niveau cet été.
Voilà, tout à fait. On est monté à 2040 dollars l'once, si vous voulez. Donc, c'est que c'est extrêmement, extrêmement élevé. Moi, j'ai envie de dire que dès qu'on dépasse les 1600, 1700 dollars l'once, ça commence à devenir un peu cher. Évidemment, au plus de 2000. Mais par contre, dès que l'or baisse, ça peut redevenir intéressant, je dirais, d'en acheter. Donc, j'ai envie de dire, ça reste avant tout ce que j'appelle une poire pour la soif. C'est-à-dire, quand on fait son portefeuille, il faut se dire, si jamais demain, il y a une nouvelle crise qui arrive, on ne sait pas. Parce que moi, je pense qu'il faut bien sûr être optimiste, mais il ne faut pas non plus voiler la face et dire les banques centrales vont toujours injecter des liquidités, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y aura rien, tout va bien se passer. Il faut être quand même prudent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit depuis des années et puis on a raté plein de crises malheureusement. Et après, derrière, il y a les petits porteurs, et bien évidemment, ils prennent le bouillon. Donc il faut rester prudent et j'ai envie de dire peut-être 10 à 15% de son portefeuille, on peut effectivement l'investir dans l'or. Alors évidemment, si on remonte aux 2000 dollars, il faut mieux s'abstenir. Et si on revient vers les 1600, 1700 dollars l'once, là, il faut renforcer. Vous voyez, c'est l'investissement. C'est une dynamique. C'est pas simplement on investit, on s'arrête. Donc l'or, c'est une valeur refuge, mais contre la récession, contre les crises. Donc si les crises, on l'espère tous, vont s'effacer, alors à ce moment-là, effectivement, l'or pourra un petit peu baisser.
Laurent Saillard, si j'achète de l'or et que je veux le revendre, je vais être taxé?
Oui, alors c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'en fait, l'or nord ne vous apporte pas de rendement, ça ne rapporte rien, ça, vous pouvez en espérer que de la plus-value. Et en fait, c'est assez lourdement taxé. Alors vous avez deux modalités possibles, soit une taxation sur le montant de la cession, on est à 11%, soit une taxation où vous tenez compte en fait, de la plus-value. Disons que ça veut dire qu'il faut pouvoir le vendre. Il faut trouver une contrepartie, il faut être dans un circuit agréé, trouver un interlocuteur.
On fait comment d'ailleurs si on veut revendre son or aussi. On va où quand on veut revendre son or? On va pas chez son banquier?
Très concrètement, on va. Alors, si on le détient soi-même chez soi ou dans un coffre d'une banque, hein, parce que c'est aussi le problème avec de l'or physique, en tout cas, c'est le problème de la sécurité. Il y a des intermédiaires agréés qui sont. sont certifiés et qui, d'ailleurs, en général, font la transaction, peuvent, dans certains cas, effectivement, faire le calcul de la taxation. On recommande plutôt de faire les choses en direct, c'est-à-dire que vous détenez l'or et puis vous le vendez directement auprès. Alors, on peut aussi le vendre d'ailleurs de particulier à particulier, hein, pourquoi pas, mais plutôt le revendre à quelqu'un effectivement qui a un statut officiel. Et simplement, voilà, quand vous le confiez, quand vous avez des systèmes un peu compliqués de détention mutualisée, c'est en général on constate que c'est plutôt de récupérer son or quand il est loin, dans une zone franche, dans un pays étranger, etc. Là, au moment où vous voulez le récupérer, c'est un peu comme les crypto. Oui.
Alors justement, les crypto-monnaies, puisque vous me tendez la perche, Christopher Dembick, vous en pensez quoi, vous, de ces crypto-monnaies? Est-ce que ça vaut le coup, les fameux bitcoins dont on parle tant et qui ont connu une année folle?
Très forte hausse. Alors, pour votre public, très honnêtement, je ne conseillerais pas d'aller sur les crypto-monnaies.
On peut rappeler justement, pour notre public, comme vous dites, ce que c'est, même si on a déjà fait une émission là-dessus, mais je pense que tout le monde n'était pas forcément à l'écoute et ça vaut toujours le coup de rappeler.
Ce sont des monnaies virtuelles qui sont décentralisées, elles ne sont donc pas émises par un État, et elles ont connu un engouement très important au cours des 10 dernières années, elles sont apparues un peu plus il y a 10 ans, et c'est vrai que vous avez eu une hausse très importante. Le problème avec ces crypto-monnaies, pour, j'oserais dire, un investisseur un peu classique, c'est tout simplement que ce n'est pas régulé. Donc effectivement, on ne sait jamais si on possède vraiment les crypto-monnaies qui sont virtuelles, comme je le rappelle une nouvelle fois, ce n'est pas physique. Et le deuxième point, c'est que malheureusement avec ces crypto-monnaies, vous avez quand même un gros problème qui aujourd'hui, il y a une partie de ce business où vous avez quand même du terrorisme, du blanchiment d'argent, etc. Donc si vous investissez très massivement dans les crypto-monnaies, il est fort probable que vous ayez l'administration fiscale qui s'intéresse aussi un peu à ce que vous faites, même si ce n'est pas
donc
du blanchiment d'argent
ou
quoi que ce soit.
Il faut diversifier. Je lisais ce matin qu'on pourrait aller jusqu'à 30 000 dollars le bitcoin, peut-être même au-delà.
Oui.
1 million de dollars d'ici 5 ans, j'ai vu cette prédiction. Marc Touati, ce serait complètement fou. Et si on dit ça à nos auditeurs, ils arrêtent tout de suite d'écouter, ils vont acheter des bitcoins?
Non, il faut être honnête, c'est-à-dire il faut être transparent. C'est-à-dire que le Bitcoin aujourd'hui, alors bien entendu, la technologie qu'on appelle de la blockchain, c'est-à-dire où justement cette monnaie, elle est complètement cryptée, ça c'est peut-être certainement l'avenir, mais peut-être qu'un jour les banques centrales auront leur propre crypto-monnaie. Mais là, il y aura un contrôle, il y aura de la réglementation, il y aura justement une assurance des dépôts. Là aujourd'hui, il y a rien du tout. Donc c'est uniquement un véhicule spéculatif. Et comme l'a bien dit Christopher, effectivement, là aussi, je pense que malheureusement, bon, on veut pas le dire, mais pas mal de blanchiment d'argent, etc. Moi, ce qui m'épate, c'est que, justement, les États n'ont pas légiféré. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et alors, bien entendu, encore une fois, ça peut encore monter. Hein. Il y a pas de limite, puisque c'est une valeur uniquement spéculative. Donc, il n'y a pas, on va dire, de réalité économique derrière, comme par exemple une action, où il y a une entreprise derrière, ou par exemple même une monnaie normale, si vous voulez, il y a un pays derrière, il y a des actifs, etc. Là, il n'y a rien. Donc, c'est uniquement un véhicule spéculatif. Donc, pour ceux qui aiment la spéculation, pourquoi pas? Pour les autres, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir parce qu'on peut, là aussi, prendre le bouillon et ça peut faire très mal.
On peut perdre quelques plumes, il y a quand même pas mal de risques.
C'est pas un placement de père de famille, ça c'est clair.
Bon, mais c'est vrai que c'est quand même troublant. Hein. Ça nous attire tous ces crypto-monnaies.
C'est troublant, c'est de la spéculation et c'est en fait un peu dangereux dès qu'on est sur des montants importants.
Bon, d'autres possibilités de placer son argent, acheter des œuvres d'art par exemple, ça vaut encore le coup aujourd'hui, Laurent Saillard?
Oui, alors c'est vrai que le marché des œuvres d'art a souffert en 2020 à cause de la crise sanitaire, pour des tas de raisons, bien sûr. Oui, ça reste, disons, un outil de diversification. Alors là, on parle quand même de patrimoine un peu conséquent, parce que dans la boîte à outils, on va dire, de l'épargnant,
on n'est pas sur,
on va d'abord
sur 10
commencer
000 euros,
par tous les sujets qu'on a évoqués ensemble, avant peut-être de s'intéresser à l'œuvre d'art. Ce sera plutôt de la diversification. C'est vrai que c'est aussi intéressant lorsque, mais là, ça s'adresse à un public extrêmement restreint. On peut y adjoindre un certain nombre d'avantages fiscaux dans le cadre du mécénat ou de fondation, etc. Mais oui, enfin, on peut que l'encourager.
Si on a vraiment un très gros budget.
À s'intéresser à l'art, d'ailleurs, de manière générale.
Bien sûr. Et investir dans la dette de la France, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Marc Touati?
Non, alors là, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a la dette publique de la France. Évidemment, je pense que l'État français remboursera, bien entendu, mais ça ne ramène rien. C'est-à-dire qu'on a même des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que pour avoir le droit de prêter à l'État français, il faut payer. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est d'ailleurs effectivement un mauvais signe. C'est parce que, bien entendu, la Banque Centrale Européenne achète cette dette publique. Donc, on a même des taux d'intérêt négatifs. Mais c'est pas du tout, là aussi, un placement d'avenir. Encore une fois, on perd de l'argent. On est sûr de perdre de l'argent. Donc là aussi, il vaut mieux effectivement s'en abstenir.
On oublie. Est-ce que ça existe encore les bons du Trésor ? Laurent Saillard.
Alors oui, enfin, pas tout à fait. Alors pas sous la forme à laquelle certainement vous pensez et qui serait directement accessible
de nos grands-pères. Oui.
Mais enfin, donc ça n'est pas, disons, il y a des produits financiers mais qui sont pratiqués par des professionnels qui sont donc effectivement des obligations de très court terme. Mais en l'occurrence, l'épargnant lui, sans le savoir, il détient de la dette publique puisque par exemple, quand il a un fonds en euros en assurance vie, en grande partie, le portefeuille est investi en obligations d'État. Donc, en fait, il contribue, les assureurs ont tout intérêt à ce que la dette publique soit remboursée. Et par voie de conséquence, l'épargnant français aussi. Donc,
je voulais faire un tour de table rapidement, puisqu'on va être obligé de conclure. La bonne idée, on a bien compris, c'est de diversifier ses placements. Chacun d'entre vous, si vous deviez aller nous dire un placement qu'on doit privilégier. Allez-y, Éric Allouche.
L'immobilier, c'est la sécurité. Dans ces périodes d'incertitude, l'immobilier, c'est vraiment l'îlot de certitude au milieu d'un monde virtuel.
Christophe Ardambic.
Les actions, le meilleur cadeau que vous puissiez faire en tant que parent à vos enfants, c'est d'ouvrir un PEA. Qui commence à comprendre comment fonctionne la bourse.
C'est noté, j'espère que les enfants ne nous écoutent pas. Laurent Saillard.
Oui, moi je dirais les actions aussi, parce que c'est vraiment le placement, on va dire le plus rémunérateur, et qui a le plus de perspectives en sortie de crise, et qui devrait quand même en avoir au moins dans les mois qui viennent, et certainement au second semestre 2021.
Marc Touati. Quel placement ?
J'ai envie de dire un petit peu d'action, mais surtout, je veux dire carpe diem. C'est-à-dire que on s'est tellement fait mal en 2020 qu'en 2021, il faut dépenser. Il faut arrêter d'épargner. Oui, c'est le meilleur placement, je pense, pour 2021, c'est de dépenser.
On aime bien cette conclusion. Merci beaucoup, en tout cas. Merci voilà. À tous les quatre pour ce débat riche en enseignements. Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.